Merveilleux, qu'est-ce qui est le plus riche pour l'homme, l'être humain, que la liberté?
Ce dépotoir a été fermé parce que
nous mettons l'accent sur la couleur du bon miel. Des gens se posent cette question.
Tous les services qui accueillent,
on ne voit pas circuler les bêtes comme ça.
Ils sont censés défendre la veuve et l'orphelin.
Et quand il y a quelque chose, votre carrosserie, c'est votre peau.
Donc du coup, je pense véritablement que
il faut pas perdre du temps sur des revendications, excusez-moi, qui n'en valent pas la peine.
Les gens se lèvent le matin à 7h, ils disputent la route avec les gros camions.
Surcharge sur les tricycles, on en voit tous les jours.
Actualité politique, art, culture et sport, société, croissance économique, santé, éducation, environnement, développement durable. Tout le Togo au quotidien des grandes villes et localités les plus reculées. Canal FM, la radio qui est plus proche de vous.
Canal FM.
Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à tous et à toutes et merci de nous choisir. Merci surtout pour votre confiance sans cesse renouvelée à votre radio, la nouvelle génération et aussi à cette émission Club de la Presse. Vous comprenez que nous sommes à 11h. 11h, c'est l'émission Club de la Presse qui démarre. Nous sommes aujourd'hui au mercredi 17 juillet 2024 et il est 11h. C'est l'émission Club de la Presse et c'est le troisième numéro pour le compte de cette semaine. Bienvenue au club. L'émission de ce jour a pour coordination technique, bien sûr, au niveau surtout alors de la mise en onde, c'est Michel Kokou Vitok Betomega. La mise en ligne est assurée par Jérôme Dakoucha. Je suis Pascal Lousso au micro. Nos salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Nero, Radio La Paix à Takpamé, Sky FM à Badou, Central FM à Sokodé, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapaon. Vous avez ce privilège de nous suivre aussi partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, à savoir Facebook et aussi YouTube et aussi alors des radios partenaires en ligne, notamment Ibn Radio et Radio Les Bénins. Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, le débat et l'analyse de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et c'est avec nos confrères journalistes en studio avec moi, premier journaliste qui a répondu présent hein, déjà dans ce studio, c'est Fabrice Patom Petizi. Fabrice, bonjour.
Bonjour à toi, bonjour aux confrères et bonjour à tous ceux qui nous écoutent.
Et la semaine, vous l'avez bien démarré?
Oui, bien démarré, ça se poursuit bien.
Fabrice, Patom, ça veut dire quoi?
On en reparlera.
D'accord, pas de soucis. Abel, William, bonjour.
Pascal, bonjour.
J'espère que vous allez bien.
Ça va, on rend grâce à Dieu.
D'accord, Dieu merci. Estelle Koudzorno, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour aux confrères en studio, bonjour aux auditeurs, auditrices de Canal FM, je n'oublie pas les techniciens.
Bien démarré la semaine.
Oui, ça va, j'ai le souffle de vie.
C'est l'essentiel. Alors, toujours jaloux ou jaloux de ses acquis, c'est ça? Toujours commandant aussi. Bonjour Abassi Saka.
Oui, les deux. Bonjour Pascal, bonjour à tous les auditeurs du Canal FM.
Justement.
Ils sont en train de nous suivre en ce moment.
Tout à fait. Ils sont nombreux, ces auditeurs qui nous suivent ici au Togo et aussi au-delà du Togo, c'est-à-dire au-delà de nos frontières. Il y a aussi beaucoup de ces gens-là qui nous suivent à travers nos plateformes digitales, YouTube et Facebook aussi. J'espère que vous avez bien passé, vous avez bien démarré la semaine.
Oui, par la grâce de Dieu. On ne peut rien dire. Donc, on a démarré la semaine. Tant que Dieu nous donne le souffle, on doit le remercier.
Même si on n'a pas changé de grade, on doit remercier Dieu.
Oui, un jour ça arrivera.
Tout à fait. On est toujours. On garde l'espoir.
On garde l'espoir.
C'est l'essentiel. Alors, Abel, vous êtes avec nous et beaucoup de gens se comprennent que nous sommes au mercredi. Mercredi parce que le journal Santé et Éducation est dans le kiosque aujourd'hui, ce mercredi déjà. Et là, vous êtes là pour décrypter l'actualité sanitaire avec nous. Et c'est tel qu'évoqué par votre journal Santé et Éducation. Et aujourd'hui, déjà dans votre parution, vous évoquez les allergies parce que vous avez fait sortir une parution spéciale que j'ai entre mes mains. Et cette parution spéciale parle alors plus des allergies. Et vous écrivez à la une de votre journal Allergies alimentaires, signes et traitements. Alors, qu'est-ce que c'est d'abord quand on parle alors des allergies alimentaires?
Merci Pascal. Une parution spéciale allergie, où on touche tous les types d'allergies. Et on recommande à tout lecteur de se procurer du journal pour comprendre en réalité ce que c'est qu'une allergie. Et les allergies peuvent toucher tout le monde, bien concernent tout le monde. Donc, en fait, quand on parle d'allergie, il s'agit de quoi ? Il s'agit de comprendre que c'est une réaction de l'organisme, en fait, du système immunitaire et à des substances présentes dans l'environnement et dans certains aliments, et dans des produits cosmétiques, et dans des produits d'hygiène, d'entretien et dans des médicaments. Donc, et déjà, on comprend qu'il existe différents types d'allergies. Allergies alimentaires, allergies médicamenteuses et allergies cutanées. Donc, ces allergies peuvent se déclencher tôt ou bien tard. Donc, comme je l'ai dit tantôt, c'est une réaction du système immunitaire ou bien soit c'est un dérèglement, en fait, du système immunitaire. Donc, quelqu'un qui est allergique à plusieurs symptômes, et on peut citer entre autres, par exemple, le nez qui coule, des yeux qui grattent, et on peut avoir aussi des inflammations au niveau de la gorge.
C'est des signes allergiques.
Voilà, des signes allergiques au niveau de la gorge, des lèvres, du visage, des éruptions cutanées et également des vomissements, des nausées, de la constipation. Et être allergique, bien l'allergie, l'un des symptômes également qu'on oublie aussi, ça peut provoquer une chute de tension.
Ah bon?
Exactement. Donc, il y a même des gens qui ont des difficultés à avaler. Et donc, c'est un peu, entre autres, des signes d'une allergie. Mais nous faisons un focus sur l'allergie alimentaire parce que c'est de plus en plus récurrent. On mange tel aliment et on se sent pas bien. On mange tel aliment et on voit que on a des allergies sur la peau, sur le visage, au niveau des fesses, au niveau de la poitrine. Donc intérieurement, on se sent pas bien. Donc l'allergie alimentaire en fait augmente de plus en plus. Donc, on peut comprendre que ces symptômes sont également divers. L'allergie alimentaire, ces symptômes sont également divers, mais on peut les regrouper en trois. Et ça peut être des symptômes au niveau cutané, en fait, des symptômes au niveau de la peau. Ça peut être des symptômes au niveau respiratoire, ou bien des symptômes au niveau, par exemple, de notre système immunitaire, à l'intérieur même de notre système immunitaire. Donc, ces allergies alimentaires, voilà un peu, entre autres, leurs symptômes ou bien leurs manifestations.
D'accord. Voilà. Alors, c'est vrai que quand il y a ces allergies alimentaires, il faut prendre des précautions et c'est d'aller rapidement consulter aussi son médecin. C'est important.
Exactement. D'abord, quand on sent qu'on est allergique à tel aliment, la plupart des allergies qu'on a, c'est... Peut-être les gens disent que quand ils mangent des arachides, par exemple, ils ont des allergies. Pas seulement des arachides, mais il y a également d'autres aliments aussi qui peuvent provoquer ces genres de réactions.
Alors, donc, chacun fait son allergie selon ce qu'il ne mange pas.
Exactement. Donc, chacun a un organisme un peu particulier. Donc, on peut comprendre déjà que l'une des choses à faire, c'est d'abord d'éviter cet aliment-là.
L'essentiel, c'est d'éviter d'abord cet aliment.
Donc, et si les symptômes perdurent, il faut toujours consulter un médecin.
Et quand vous parlez alors des aliments, je vois un article également que vous avez écrit à la page 4 de votre journal. Vous écrivez le titre, je lis, « Ces aliments qui rendent malades ». Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y a des aliments qui rendent malades ? Oui, nous avons parlé alors des aliments qui rendent aussi allergiques, mais est-ce qu'il y a des aliments qui rendent aussi malades ?
En fait, quand on parle d'aliments qui rendent malades, c'est juste pour montrer en fait que ces aliments... ne vont pas bien avec notre système immunitaire. Parce que quand on les consomme, on peut voir qu'on a des réactions au niveau de notre organisme, en fait des réactions négatives au niveau de notre organisme. Donc, comme vous le dites, ça dépend de chaque organisme, ça dépend de l'aliment qu'on a consommé. Donc, entre autres, par exemple, pour plusieurs, c'est l'arachide, par exemple. Est-ce qu'on voit ? D'autres aussi, c'est le lait, ou bien des œufs, ou bien par exemple... Et c'est un fruit qu'on ne tolère pas.
Voilà.
Donc, à chacun d'écouter son propre corps et de prendre la disposition essentiel, nécessaire.
Juste pour, voilà. Je pense que l'essentiel, c'est ça, c'est d'écouter alors son corps et de prendre aussi les mesures, les dispositions nécessaires. Alors, pour des mesures nécessaires, vous nous proposez aussi des gestes naturels pour éviter les allergies.
Oui, comme on l'a dit tantôt, tout à l'heure, les allergies sont dues à des substances au niveau de l'environnement, au niveau des aliments, au niveau des produits qu'on utilise. Au niveau de l'environnement, de façon générale, il faut toujours laver, dépoussiérer, nettoyer et tout en fait, les coins, les recoins de nos chambres, balayer, aérer surtout.
Ce sont des pratiques.
Voilà, ce sont des pratiques qu'on doit faire régulièrement pour éviter les allergies. Et la prévention est extrêmement importante. Et si on a des signes d'allergiques, on le réitère, on a des signes d'allergiques, on se sent très mal, on a des éruptions, des éruptions sur la peau, le nez qui coule, et des yeux qui grattent, on a des inflammations au niveau du visage, tout ça là, il faut consulter un médecin.
C'est très important, il faut consulter un médecin. Alors, vous nous mettez aussi en garde par rapport aux fruits de mer, et vous écrivez un article à la page 5 et vous dites attention aux fruits de mer.
Oui, exactement, ce sont également les fruits de mer. Quand on prend les crevettes, on prend les moules, on prend les écrevisses, on prend les crabes. Donc, en réalité, certains ne tolèrent pas ces aliments-là. Parce que en fait, il y a des substances, en réalité, que contiennent ces aliments qui peuvent aussi déclencher des réactions allergiques au niveau de l'organisme. Donc, si on ne tolère pas, on n'en prend pas. Donc, on fait aussi un peu attention à ces genres d'aliments également.
Alors, quand on parle d'allergie, vous mettez le lien aussi avec les médicaments. Ou vous parlez alors des allergies médicamenteuses et vous posez la question de savoir que faire. Alors, moi, je vous repose la question. Qu'est-ce qu'on doit faire quand on a les allergies médicamenteuses?
C'est une question qui a été posée à un spécialiste et il a vraiment répondu. D'abord, il nous dit d'emblée que tout médicament peut provoquer une allergie. D'entrée de jeu, et c'est ce qu'il nous dit. Donc, et on peut comprendre que là encore, il y a des médicaments qui peuvent être d'origine allergique, donc très diverses. Donc, cela peut aller des réactions cutanées de type, par exemple, des urticaires, on appelle ça des urticaires, jusqu'à des maux de ventre, ou même provoquer ce qu'on appelle un choc anaphylactique. C'est-à-dire que c'est une réaction un peu violente. Et mortel, voilà, donc au niveau des médicaments. Donc ce genre de réaction peut conduire à une hospitalisation, et il faut d'abord comprendre que les médicaments également peuvent aussi entraîner des allergies. Donc si on prend un médicament que l'organisme ne tolère pas, ou bien qu'il y a des effets secondaires, qu'il y a des réactions allergiques en fait au niveau de notre organisme, référez-vous à un pharmacien, référez-vous à un médecin qui peut nous prescrire la bonne dose, mais qui peut me donner des conseils appropriés.
Voilà, puisque quand on sent des allergies, après avoir consommé ou après avoir pris un médicament, ça veut dire qu'il y a quelque chose, un dysfonctionnement, il y a quelque chose qui ne va pas bien. Et l'essentiel, c'est d'aller consulter un médecin très vite pour que du moins soit la dose indiquée, soit plus alors donnée. Alors, déjà, nous allons terminer notre entretien avec cette citation de Jean-Louis Moret. Jean-Louis Moret, que vous avez cité ici alors dans votre article, je lis la citation: l'homme malade devient un fardeau à lui-même et aux autres. Fais tout pour garder ta santé. C'est bien ça.
Exactement. Ça, c'est une citation qui moi, personnellement, me tient à cœur, et je crois que ça tient à cœur aussi les populations. Et c'est clair. Quand tu es malade, c'est un fardeau pour toi. Cherche toutes les solutions pour guérir, pour être en pleine forme. Et quand tu es malade également, c'est la famille, c'est les amis, c'est le voisinage aussi qui est soucieux de ta santé. Et c'est un fardeau également pour les autres, parce que tu n'es pas en bonne santé pour travailler, pour faquer à tes occupations. On cherche des solutions également pour que tu sois guéri. Donc, la conclusion, c'est que il faut tout faire pour garder ta santé. Soyons le premier acteur de notre propre santé.
C'est très important. Nous devons être le premier acteur de notre propre santé Abel William, merci d'être passé alors dans cette émission pour retrouver votre journal Santé Éducation. Qu'est-ce qu'on doit faire pour retrouver le journal? Le journal est dans les kiosques. Exactement. Et les bacs alors ce matin.
Déjà dans les kiosques à partir de, bien au prix de 1000 francs.
Oui.
Prix de 1000 francs et sur notre site internet www.sante-education.tg, la version PDF au prix de 500 francs. Et on peut nous contacter sur les numéros 96 14 97 97 ou le 91 79 47 07.
Abel William, merci d'être passé dans cette émission. Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse, chers confrères. Nous allons démarrer cette émission avec notre débat du jour. Et bien sûr, nous commençons avec un sujet du sport. Sport, nous savons que déjà en début de semaine, c'est plus précisément le lundi, le nouveau sélectionneur alors du Togo est connu. Il s'agit alors de l'ES, défenseur central, des éperviers du Togo, Nibombé Daré. Il y a beaucoup de journaux qui sont revenus sur le sujet ce matin. Il y a Togo Matin qui est revenu sur le sujet. Le Togo Matin écrit « Sport, sélection togolaise, Nibombé Daré, le bon choix » et s'interroge le journal. Alors, il y a aussi d'autres journaux comme La Manchette qui s'intéresse aussi à ce sujet du sport. Et La Manchette écrit « Togo Football, Nibombé Daré, nouveau coach des éperviers ». Alors, Fabrice, vous avez appris cette information, hein, comme nous tous, que déjà il y a la candidature de l'ex-défenseur central alors des éperviers du Togo qui a en quelque sorte retenu l'attention de la FTF, la Fédération Togolaise alors de football, et désormais le nouvel entraîneur c'est bien Nibombé Daré. Alors finalement on pourra dire que c'est le bon choix.
Oui, il faudra dire quand même que Nibombé Daré, il est très connu du monde du football togolais. Il fait partie de la génération dorée des éperviers et après sa carrière il est allé obtenir un diplôme d'entraîneur qui lui donne quand même le droit de prendre en charge une équipe nationale comme celle du Togo. Je crois que félicitations à lui. Est-ce que c'est le bon choix? Oui, c'est le choix. Il ne souffre pas de déficit ou de capacité de confiance parce que bon, aujourd'hui il faut ce diplôme là. Maintenant pour le reste on le verra à l'œuvre. Alors peut-être par rapport à son palmarès en tant qu'entraîneur, je n'en sais pas grand chose, mais j'aurais appris qu'il a entraîné beaucoup de clubs au niveau de la Belgique. Maintenant moi je suis content quand même qu'on fasse le choix d'un entraîneur local parce qu'aujourd'hui la tendance, c'est un peu ça dans beaucoup de pays où on a vu quand même les locaux conduire les équipes à des victoires. On a vu la Côte d'Ivoire, par exemple, le plus récent, la dernière fois. On a vu également le Sénégal, qui a réussi à gagner la Coupe d'Afrique des Nations avec un entraîneur local. Donc, pourquoi pas le Togo? Je crois qu'il faut essayer. Aujourd'hui, nous avons de la ressource. Félicitations à Nibombé qui n'est pas resté peut-être sur les réseaux sociaux pour raconter sa vie, mais il est étudié pour avoir un diplôme d'entraîneur. Et aujourd'hui, il sert le pays. C'est un peu cela. Je crois que si les autres anciens footballeurs qui s'ennuient beaucoup peuvent également emboîter le pas de Nibombé, ne serait-ce que peut-être être consultant ou alors jouer un rôle. Parce que le football, on l'arrête très tôt. Hein. Aujourd'hui, à 35 ans déjà, vous pouvez être à la retraite. Bon, alors qu'est-ce que vous allez faire pour le restant de votre vie? Si vous êtes dans les affaires, c'est bien. Mais si vous pouvez être utile également à la génération future en ce qui concerne le football, je crois que c'est ce que Nibombé a fait. Et il faudra maintenant peut-être les enjeux. On sait la situation qu'on réserve très souvent aux entraîneurs locaux. Ils ne sont pas gâtés comme les expatriés qu'on amène ici, parfois qui logent dans des hôtels 5 étoiles et qui ont pratiquement tout ce qu'ils veulent. Je crois qu'il faut mettre à sa disposition tous les moyens également, comme on en a toujours fait, et au niveau des résultats, on verra ce que ça va donner.
D'accord, au niveau des résultats, on verra ce que ça va donner. Nous sommes rejoints par Sylvestre Béni. Sylvestre, bonjour.
Oui, bonjour Pascal et bonjour à toutes et à tous.
Est-ce que oui, vous avez écrit cela aussi à la une de votre journal, c'est ce choix du sélectionneur des éperviers alors du Togo, c'est Nibombé Daré, notre compatriote bien sûr, Nibombé Daré qui a été choisi pour être le sélectionneur ou le nouvel entraîneur alors des éperviers. Finalement, comment vous appréciez ce choix?
Non, écoutez, c'est une très bonne chose. C'est vrai que c'est pas une première, puisqu'on a eu un tellement donc, d'entraîneurs locaux. Ça n'a pas très bien marché. Hein. Il y a eu Paul Zoubédé, il y a eu Kodjovi Mawena, nous avons eu Chayine Tchakala, Chayine Bana, et tout, mais ça n'a véritablement pas marché comme on le souhaitait. Mais ici, la particularité, c'est que Nibombé, lui, il a quand même su hein, poursuivre donc, ses études. Aujourd'hui, il a quand même de très grands diplômes en ce qui concerne donc, le football. Et seulement qu'il n'a pas une expérience hein, sur le plan africain hein, en tant que sélectionneur. Donc, ce serait quand même son premier. Mais avant lui, nous avons aussi connu un certain Stéphane Kéchi, qui n'a pas eu quand même assez d'expérience sur le plan africain, mais qui a su hein, ou pu qualifier donc le Togo pour sa première Coupe du Monde, et donc surtout en 2006 avec la CAN et la Coupe du Monde. Donc on souhaite tout le bonheur donc à Nibombé, encore que il venait à peine donc de quitter les épervis. Si je dis à peine, donc c'est, on l'a vu jouer il y a encore quelques années. C'est un meneur d'hommes, et donc on espère que au niveau de la fédération les conditions seront quand même réunies hein, pour que le monsieur ait quand même pu sortir donc son talent. Hein, mais bon, c'est vrai que les débuts ne sont pas ce qu'on espérait, puisque selon donc les informations, il n'a pas encore signé le contrat, puisqu'il n'est pas au pays. Mais généralement, pour ces gens donc de situation, il faut signer le contrat avant que l'annonce soit officielle. Hein, avant, qu'est-ce qu'on faisait? Si la FTF et puis le ministère des Sports se sont accordés sur le sélectionneur choisi, hein, il revient à la FTF juste donc de l'annoncer. Mais ici, on annonce officiel, annoncer son choix. Pas dit ouvertement que c'est son sélectionneur, mais ici, on annonce ouvertement que la personne est donc le sélectionneur des éperviers, mais il n'a pas encore signé. Donc, on espère qu'il va revenir très bientôt, puisqu'il est, il est donc à Belgique, il va revenir très bientôt pour signer le contrat. Et donc, on sait hein, à avoir donc une équipe. Et depuis aussi, en 2006, même si on dort, on te réveille donc de donner les 11 entrants, les 11 titulaires. On pouvait le faire, mais aujourd'hui, bon, chaque match avec presque, hein, ou chaque entraîneur avec ses joueurs, on change très souvent donc la nomenclature, si bien qu'on n'a plus, hein, les épreuves ne donnent plus cette envie-là que nous avons, que nous avons quand même voulu. Donc, voilà, on croise les doigts pour Nibombé, et puis bon, voilà. Encore que, il a, spirituellement aussi, c'est bon, il a, parce que, hein, tous les Togolais s'accordent sur la personne, vous voyez. Donc, il a quand même également, donc, ce poids-là qui fera, et je l'espère bien pour lui.
Mais quand vous parlez de spirituellement, est-ce que vous le connaissez sur le plan spirituel?
Non, écoutez, quand je dis spirituellement, c'est-à-dire que tous les Togolais sont à fond, l'adhésion populaire, quoi. Voilà, il n'y a pas, pour l'instant, donc, de voix discordante.
D'accord.
Hein, en attendant que peut-être certains ne reviennent pour voir si, sur les réseaux sociaux, on aura d'autres choses.
D'accord, il y a une harmonisation totale alors autour de son choix, c'est ce que vous l'avez dit. Ouais. Oui, c'est vrai que Fabrice a évoqué la question alors des conditions tout de suite. C'est vrai qu'on voit que quand il s'agit alors des entraîneurs étrangers, souvent il y a les conditions qui sont mises à leur disposition. Et même quand on parle alors du salaire, c'est des salaires quand même aussi conséquents. Mais finalement, pour Nibombé Daré, qu'est-ce qu'on peut prévoir hein, pour Nibombé Daré? C'est vrai que nous ne sommes pas dans le secret des dieux, mais finalement, est-ce qu'on peut également estimer une condition alors pour Nibombé Daré?
Oui, c'est souvent le point d'achoppement au niveau des discussions. Je suis restée la dernière fois un peu sur ma soif du fait que le contrat ne soit pas encore signé avant qu'on ne fasse l'annonce officielle. Ça laissait un peu un goût d'inachevé. Et tout de suite, ce à quoi j'ai pensé, c'est voir si les discussions n'ont véritablement pas encore abouti. Est-ce que c'est un moyen de pression? C'est une question que je me suis posée. Puisque tout le monde s'attendait à ce que, lors de la présentation la dernière fois, que l'intéressé même soit là, qu'on recueille au moins ses impressions et ses mots pour pouvoir jauger vraiment de son engagement et de son acceptation de la chose. Mais quand on dit parmi le lot, je crois qu'ils étaient 4 ou 5 à concourir, finalement c'est lui qui est retenu, et qu'on vient nous annoncer que, bon, c'est lui qui est retenu, mais le contrat n'est pas encore signé. Ça m'a fait un peu tiquer.
Ça, c'est déjà un mauvais démarrage?
Non, on ne peut pas dire que c'est un mauvais démarrage, mais ça laisse quand même une faille dans la présentation et dans l'espoir qu'on peut avoir. Qu'est-ce qui cloche pour que la signature ne soit pas faite avant qu'on ne passe à la présentation? C'est une question qui reste posée. Du coup, oui, on souhaite toujours que, de la même manière que les expatriés sont traités, que ce traitement soit réservé également aux entraîneurs locaux et qu'ils aient les coups d'effronge pour pouvoir prendre leurs décisions et pouvoir appeler chat-chat quand il s'agit de le faire pour pouvoir distinguer les choses et s'imposer. Puisque aujourd'hui, on connaît bien le problème du football togolais. Tout le monde s'est pratiquement désintéressé à cause de ces problèmes-là. On a toujours souhaité qu'on ait récent encore un entraîneur local. Aujourd'hui, c'est chose faite, même si le contrat n'est pas encore signé, comme je viens de le dire. Mais on garde quand même espoir, on reste positif en espérant que ces petits soucis ne vont pas entraver en fait la marche dans laquelle ils sont engagés et qu'ils trouvent un terrain d'entente par rapport au salaire surtout et les clauses de ce contrat-là pour passer à la signature pour lui permettre en fait d'être à l'aise dans son rôle, dans les tâches qui lui seront confiées et surtout que cette signature va intervenir à un moment décisif. Hein. Les éperviers se préparent pour les qualifications à la CAN 2025 et au Mondial 2026 actuellement. Donc, sa signature intervient à un moment très décisif et tout le monde l'attend de pied ferme. Je lui souhaite d'ores et déjà bonne chance, mais vivement que le contrat soit signé. Ça nous permettra d'analyser en fait les clauses, les tâches qui lui sont confiées pour faire le suivi et voir où est-ce qui nous conduit tout simplement.
D'accord. Abbas, j'ai suivi beaucoup de commentaires hein, sur le sujet, sur les réseaux sociaux. Il y a certains qui ont apprécié, il y a d'autres également qui ont apporté des critiques et d'autres disent que, allez, ce n'est pas la question. Alors, le problème alors du football togolais n'est pas forcément un problème d'entraîneur. Et même, on peut même d'ailleurs faire venir un certain José Mourinho, mais ça ne va rien changer si, du moins, le nœud du problème n'est pas attaqué. Est-ce que vous êtes aussi du même avis?
Oui, mais il faut éviter ce genre de commentaires et d'analyses parce que lorsque vous mettez ça dans la tête, c'est déjà la déception qui vous prend. On sait que le problème du football togolais, on peut le dépasser, on peut le surpasser. Il faudrait une mentalité forte pour le surpasser et mettre ensemble les acteurs. Parce que vous voyez, lorsqu'on avait nommé Kader Koubadia comme l'adjoint de Duarte, il a invité les anciens joueurs et les anciens entraîneurs avec lui pour leur parler. Ils ont parlé. Et c'était lorsqu'il est venu en même temps, un mois après, il les a invités ensemble. Il a organisé une rencontre où il a demandé leur expérience un peu partout. Donc il dit qu'il a demandé leur appui. Aujourd'hui, avec Nubomé Daré, c'est quelqu'un d'abord qui est un formateur, un pédagogue qui est là. Et on est en train de nous dire que les discussions continuent parce que lorsqu'il va venir et on va signer le contrat, il faudrait qu'on connaisse le staff qui l'accompagne. Comment ce staff sera composé? C'est ça qui est le problème maintenant. Est-ce que, parce qu'il est en Belgique, il travaille avec des gens en Belgique là-bas, il demandait, même selon les propositions que nous avons apprises, c'est qu'il veut avoir un adjoint direct qui serait un Belge pour l'accompagner dans cette tâche. Et après, le staff sera beaucoup constitué autour de lui. Aujourd'hui, on a Koubadia Kader qui est l'entraîneur des locaux, des éperviers A'. Donc, on attend de voir, parce que si le contrat n'est pas encore signé, c'est que les discussions continuent. Mais il faut savoir que nous sommes beaucoup en retard. La compétition pour la CAN commence en septembre prochain. Il ne nous reste même pas encore 3 ou 4 semaines parce que je pense que c'est le 15 ou bien le 12 septembre que ça commence. Aujourd'hui, nous sommes au 17 juillet. Donc, il faudrait qu'on fasse tout pour signer le contrat là et qu'on connaisse le staff et savoir les joueurs avec qui il va travailler. On sait que Paulo Duarte a déjà construit une équipe déposée. Est-ce que c'est avec les mêmes qui va continuer ou bien il aura, parce que lui-même, selon les explications de certaines personnes, il n'aime pas l'intrusion dans ces affaires.
Aucun entraîneur.
Mais il y a déjà, parce que ce qui se passe ici.
Il faut être fort de caractère.
Oui, voilà. Aucun entraîneur.
Lui, c'est sa méthode. Il n'aime pas qu'on fasse des intrusions dans ses affaires. L'essentiel, qu'on mette les moyens, comme on a mis ça à Claude Leroy, qui a pu faire des matchs amicaux et autres. On a mis aussi des moyens à Paolo Droité, qui a pu aussi construire. Mais aujourd'hui, ce n'est pas parce que Nibomé Daré Togolais, il est local, qu'on ne va pas mettre les mêmes moyens qu'on mettait aux autres blancs, à Droité et puis à Claude Leroy. Donc il faudrait que, c'est ça que j'ai dit, c'est la mentalité du Togolais qui doit changer. Il faudrait, aujourd'hui, il y a l'unanimité autour du choix de Nibomé Daré. Et s'il y a une union tout autour de lui, j'espère que nous allons revivre ce que nous vivons en 2005-2006. Donc s'il n'y a pas d'union, il y a cette division et autres là, on aura beaucoup de problèmes dans cette...
D'accord. Oui, Fabrice.
Oui, moi je suis d'accord avec toi quand tu posais la question sur la partie des Togolais qui estimaient que ce n'est pas l'entraîneur qui règle le problème. Je crois qu'il faut avoir le courage de poser le problème. Ce n'est pas parce qu'on a nommé Nibombé Daré
que tous les problèmes sont derrière nous. Problèmes.
Oui, notre football togolais a d'autres problèmes que celui de l'entraîneur. Il faut le poser tout de suite pour que si jamais, je ne suis pas un oiseau de mauvais augure, l'autre commence, il y a des soucis, qu'on lit ça seulement à l'entraîneur. Que ce soit Claude Leroy, quel que soit ce qu'on peut lui reprocher, Paolo Duarte, on sait quand même qu'il y a d'autres problèmes qui minent le football togolais qu'il faut forcément régler. Et très souvent, de façon générale sur le continent, le problème que les entraîneurs locaux ont, effectivement, c'est ce capital, c'est-à-dire que cette capacité à résister, à ne pas se faire influencer par qui que ce soit. Vous avez vu dans le cas de Claude Leroy, il paraît qu'il avait la possibilité d'appeler directement quelque part pour lever des fonds pour réaliser certains matchs ou autres. Ce qui n'est pas le cas quand il s'agit, par exemple, d'un entraîneur local. C'est pas propre au Togo, hein. Et également, les gens qui s'immiscent également, quand vous êtes un entraîneur local, il y a aussi cette question de complaisance, où on a, parfois, on joue sur d'autres éléments qui ne sont pas forcément des éléments qui concourent à renforcer une équipe. Ça, c'est des problèmes qu'il faut également poser pour dire, oui, l'entraîneur local, c'est bien, mais parfois, ils sont confrontés à un problème qu'il faudra régler. Pour ne pas donner l'impression comme si ce sont les locaux qui ne marchent pas. Maintenant, pour ce qui concerne son contrat, j'ai plutôt l'impression que c'est une pratique dans le football, hein. C'est-à-dire que beaucoup ont déposé. La fédération a décidé que ils ont analysé toutes les propositions, les prétentions salariales, tout ça là. Et ils disent, bon, nous choisissons celui-ci. C'est un peu comme, là, quand vous prenez l'actualité du football, on a annoncé Mbappé au Real depuis, je sais pas, le mois de juin ou quoi, mais c'est hier, le contrat a été officiellement signé, il a été présenté. Donc, je ne pense pas qu'il n'y a pas eu des discussions en amont avec lui, mais dès que quand il sera là, il y aura peut-être la partie officielle qui va consolider définitivement les choses. Mais, comme on le dit, Sylvestre le disait tout à l'heure, quand il a évoqué les entraîneurs locaux, ça n'a pas marché. Oui, les expatriés aussi, ça n'a pas marché, hein. Donc, de façon globale, le bilan est négatif pour tout le monde. Donc, pour l'instant, on ne sait pas si c'est parce que, on peut pas dire que c'est parce qu'ils sont des locaux que ça n'a pas marché. Maintenant, si on me dit, certains ont qualifié. Oui, Tchanile Bana aussi a qualifié, ou bien c'est Tchakala qui a qualifié aussi.
C'est
Tchanile Bana.
C'est Bana.
C'est pas Burkina, non? Il a qualifié. C'est lui-même qui a révélé Adebayo. Et il raconte qu'à l'époque, quand il le sélectionnait, les gens disaient que c'était de la complaisance, que c'est un petit qui venait, bon, pourquoi? Mais finalement, et donc, c'est pour dire que on a amené des Gottlieb Güler. Oui, un Allemand, il était le premier à qualifier le Togo en 72. Mais après, il y a eu des Togolais qui ont réussi, à part Keshi qui a réussi à qualifier le mondial, mais qui n'est pas allé au mondial. Aujourd'hui, il est difficile de dire que tous les locaux qui ont échoué, c'est parce qu'ils sont des locaux. Parce qu'il y a eu aussi des expatriés qui ont lamentablement échoué. Alors, le premier, c'est Claude Leroy. qu'on nous a vendu comme étant le sorcier blanc. Il a échoué lamentablement. Paolo Duarte, il a échoué lamentablement. Mais il y a eu certains expatriés aussi qui ont réussi à faire quelque chose.
Il y a Didier Six qui a réussi. Mais il faudrait également dire que, vous savez,
Sylvestre,
aujourd'hui, je crois que, ayons le courage de reconnaître que nous n'avons pas aussi tellement donc de joueurs de haut niveau. Il faut le dire parce que, oui, quand on le dit très souvent, les gens peuvent nous dire, oui, en 2006, on avait Adebayo, on avait Algassa et tout. Mais en 2006, nous avons eu une équipe. Il y avait une équipe. Et je disais tout à l'heure que même si on te dit de faire les 11 rentrants, tu peux le faire facilement, hein. Mais aujourd'hui, c'est souvent donc, on fait plus la part belle aux binationaux, hein, qui, bon, quand ils voient que, bon, au niveau de la France ou dans d'autres, la deuxième nationalité, ça ne prend pas, bon, on revient. On sait que bon, le Togo est là, quoi. On peut au moins revenir parce que le Togo en volait. Donc, il y a tellement de binationaux et l'osmose, ça ne prend pas tellement. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'équipe. On a quelques individualités et tout. Bon, des gens aussi qui peinent aussi à s'affirmer dans leur club. À part Kevin qui claque les buts à Bruxelles et tout ça. Aujourd'hui, vous regardez un peu, vous peinez même à retrouver les gens sur le banc. Voyez-vous? Mais bon, comme. Bon, l'équipe nationale, il faut trouver des gens pour tous les compartiments. Il y a quand même d'autres qui viennent, mais à condition qu'on ait une équipe. Donc, Daré n'a pas peut-être une baguette magique pour dire, bon, il vient, bon, premier match, bon, les épreuves vont manquer 10-0. Même premier match, on peut prendre même 10-0. Mais c'est là où on doit être soudé pour aider donc l'entraîneur à avoir une équipe. Et après, de quoi qu'on aura tout le boulevard.
Oui, le premier match, c'est prendre 10-0. Je pense que ce serait grave. Alors, monsieur qui est sûr, oui, Estelle, c'est vrai que d'aucun. Oui, d'accord, rapidement.
On sait tous que le football togolais a de gros problèmes depuis un moment, d'accord. Aujourd'hui, c'est facile de constater même que quand tu prends les gens aujourd'hui, on n'est même plus à même de citer le 11 togolais aujourd'hui. Sincèrement, des gens n'arrivent même pas à citer deux noms de joueurs togolais aujourd'hui. Tellement on est désintéressé de la chose à cause de ces problèmes-là. Est-ce que l'occasion n'est pas en or pour reposer sur la table vraiment, crever l'abcès par rapport à ce qui se passe dans le football togolais avant que Daré ne commence également son contrat. Comme ça, au cas où il y a encore quelque chose qui cloche, on saura que bon, au moins tel problème a été réglé, également a été réglé. Ensemble, maintenant, nous avons une voie uniformisée pour affronter en fait le problème. Sinon, s'il y a toujours cette distension-là, s'il y a des rancœurs, tout ce qu'on sait dans le football togolais, si ça existe, et qu'à son niveau, il n'a pas une baguette magique en fait pour régler le problème à son niveau seul. Si l'ensemble du problème n'est pas réglé, je crois que ce serait déjà un peu parti sur un mauvais pied que d'espérer qu'il viendra résoudre tous les problèmes dont souffre le football togolais aujourd'hui et espérer en fait une victoire à la fin. Donc je crois que l'occasion est effectivement donnée pour pouvoir poser d'abord les problèmes du football en général et situer également ses responsabilités pour lui donner la possibilité de reconstruire aujourd'hui l'équipe togolaise puisqu'il a la chance de vivre en Belgique. Je ne sais pas comment sera constitué son staff, comme on vient de le dire, par rapport au passé, c'est Serge Akaku qui s'occupait de ces questions-là. Ensemble, comme ils sont en Europe, voir avec les binationaux, chercher de nouveaux talents pour asseoir en fait l'équipe nationale et pour nous donner cette joie-là d'antan dans des années 2000.
Mais tout ça, c'est toutes ces questions d'objectif. Hein. Mais si jamais la FTF commet l'erreur de dire que c'est pour nous qualifier pour la prochaine CAN.
Mais c'est possible, non, ça c'est la mission qu'on va lui confier. Justement, c'est la mission qu'on va lui confier. Oui, non,
mais si, moi je crois que comme il l'a dit, nous souffrons d'effectifs.
Oui, on n'en a pas.
Pour moi, il faut être dans la construction. Maintenant, c'est comme l'Espagnol, il est venu la construire.
Il faut au moins
ça a marché.
Mais on n'a pas cette patience, vous comprenez avec moi. On attend tout de suite les résultats.
Quand vous prenez les Aliou Cissé, ils ont fait combien de compétitions avant d'atteindre le Graal? Bon, moi, je crois qu'il faut être dans une logique de long terme et construire une équipe compétitive. Si ça prend vite, c'est bon.
Mais si on est dans la logique de peut-être apprécier Bibombé par rapport à la prochaine CAN, il y a déjà un mauvais départ.
D'accord, ok. C'est vrai que tel que Estelle évoque le sujet tout de suite, c'est-à-dire fait en quelque sorte une table rase de ces sujets lors du football et prendre un nouveau départ. Alors finalement, puisque d'aucuns également estiment qu'il est très important de faire plutôt une grande assise aujourd'hui du football, parce que les problèmes sont dans des compartiments différents. Il y a rien que des enjeux qui nous annoncent, même d'ailleurs, que pour le football, le journal écrit Football Togolais, deux présidents de la FPF doivent plus de 50 millions à un préparateur spirituel des éperviers. Alors, finalement, pour tous ces paramètres à l'ordre de la chose, est-ce qu'il ne faut pas aujourd'hui organiser plutôt une assise pour le football togolais?
Assise, oui, mais tu sais, le problème du football togolais a commencé lorsque le Togo est sorti du mondial 2006. Du retour du mondial 2006, ces problèmes-là ont commencé. Avec la querelle même des dirigeants de la FTF. On a vu comment Rock a été traité et maltraité même après le mondial 2006. On a fait tout, on a fait venir Tata Blessi. Tata Blessi également a eu les mêmes problèmes avec Gabriel Amey. On le traitait de tous les noms d'oiseaux. Et ça fait qu'en ce moment-là, le football togolais a commencé par s'assombrir. On a vu un début de relèvement en 2013, lorsque nous sommes allés à la CAN
avec Didier 6.
Ça a voulu prendre. Mais par après, c'est retombé parce qu'il y a beaucoup de choses à se dire au niveau de la fédération, au niveau des joueurs et à l'ensemble même des acteurs du football togolais. Comme tu le dis, s'il faut des assises nationales du football togolais pour qu'on crève les abcès, que les uns et les autres disent qu'est-ce qui ne va pas, quel dentier a contre ce monsieur. Là, on pourrait trouver des solutions. Mais aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a des gens, lorsque les EPV jouent, c'est eux qui sont là en train de travailler parce que ce n'est pas eux qui sont à la tête. Ils travaillent pour que les EPV ne passent pas.
C'est-à-dire que l'équipe est
chaude. Tu veux parler de Baudet?
Non, je ne parle pas de
Baudet. Non, le vieux Baudet a dit oui.
Non, je ne parle pas.
Il a dit ouvert toi.
Je suis en train de dire, je n'ai jamais cité Baudet. Pour Baudet, là, les gens disent que c'est autre chose.
Au niveau de la fédération. Il y en a plus que ça?
Il y en a plus que ça. Ce n'est pas Baudet. Baudet, lui, il a fait des déclarations et les gens l'ont suivi et il a versé de l'eau. Mais ici, il y a des gens en dessous
qui font des choses en cachette.
Ils font des choses. Ça dit, ce n'est pas moi qui suis là-bas, ça ne va pas.
Oui, c'est quoi?
Et là. J'ai évoqué tout à l'heure le problème des fédérations, des présidents des fédérations, des bureaux des fédérations après 2006 qui sont suivis. Et toutes ces personnes-là, si on pouvait les rassembler, les réunir, pour leur demander qu'est-ce qui ne va pas entre eux, pourquoi le football a été embrigadé, ils vont chercher à nous dire, c'est pour cela que j'ai dit, ces assises-là sont très importantes.
D'accord.
Pour amener les uns et les autres à comprendre mieux le football togolais.
D'accord. Merci beaucoup, cher confrère. Nous allons quitter le sujet. Nous allons aborder la question à l'ordre du développement. Fabrice, vous nous annoncez déjà la une de votre journal ce matin qui est un partenariat entre le Togo et la Banque mondiale où le Togo va bénéficier de 900 milliards de francs CFA pour 2025-2029. C'est bien ça?
Oui, c'est ce partenariat sur pratiquement 5 ans. Près de 900 milliards de francs CFA qui vise trois secteurs clés. Il y a le capital humain qui est visé. Il y a également la question du développement territorial aussi qui est visé. Il y a également la qualité de l'emploi. Et donc je crois que c'est un partenariat avec le grand bailleur devant lequel la Banque mondiale qui a été scellé depuis le 12 juillet dernier et qui comporte plusieurs compartiments et que les lecteurs pourront découvrir dans l'article. Ça rentre dans les questions de développement que le Togo quand même a amorcé. Maintenant, la sinante question qui revient très souvent par rapport à ces partenariats, c'est que les gens recherchent toujours à toucher du doigt les différentes réalités. Mais quand vous regardez, vous allez comprendre que ça cible certains secteurs bien clés. Maintenant, il faudrait que, peut-être à l'issue de ces 5 ans, qu'on puisse vraiment constater une certaine avancée en ce qui concerne le développement du pays.
D'accord. Sylvestre, on sait que la Banque mondiale n'est pas une organisation philanthropique. Ce qui est sûr, 900 milliards, c'est encore alors des dettes pour le Togo.
Oui, généralement, bon, on a souvent donc ces fonds sous deux volets. Ça peut être sous forme donc de dons ou de prêts. Hein, bon, cette fois-ci, c'est vrai que je n'y étais pas.
Même quand on parle de dons,
c'est un prêt. Donc, quand on vous parle donc de prêt, toi-même, tu comprends.
Oui, mais quand si on parle même du don aussi, il faut comprendre aussi.
Même si
derrière la terminologie.
Oui, il y a des dons sous cliché de prêt aussi. Donc, oui, tout compte fait, nous allons payer. Hein, c'est pas la Banque mondiale n'est pas là pour faire donc de l'aumône aux pauvres. Hein, donc, le Togo va payer tôt ou tard, même si c'est quand après, on payera. Si c'est peut-être nos petits-fils viendront payer, ça c'est sûr. Donc, l'important, c'est qu'il faudrait quand même que ces fonds soient gérés, hein, et avec, dans le plus sérieux, hein, possible pour que les Togolais puissent véritablement sentir donc les fruits. Généralement, c'est ça. Moi, à chaque fois, on dit, oui, le Togo a eu un tel montant, donc de telle institution et tout. La première question, c'était pourquoi on a tellement donc, de montagnes et que nous sommes toujours au même endroit. On ne sent pas l'impact sur le développement, hein, et humain et social. Hein,
mais est-ce que vous pensez vraiment que nous sommes au même endroit?
Non, écoutez, moi, ça fait des années, je ne pense pas qu'on a décollé, hein, parce que...
Rien n'a changé?
Non, c'est autant de la COVID qu'on a véritablement donc jaugé tout cela. Hein, vous avez vu, même le gouvernement même a compris, et il a fallu... Hein, ce filo social là pour envoyer 5 000 ou 6 000 au Togolais, parce qu'on a compris que véritablement les gens étaient sur les rotules, voyez-vous. Donc hein, le Togolais continue toujours à tirer donc le diable par la queue. Il y a certains qui cherchent même le diable avant de lui tirer la queue. Donc il y a tous ces paramètres là on ne sent pas un impact, hein. Et moi j'ai toujours l'habitude de dire que c'est le même système qui est là depuis des années. Normalement, hein, quand vous êtes là à un niveau d'ordre, vous devez véritablement connaître le pays, savoir en réalité sur quel levier, hein, donc, hein, sur quel levier ou quel sera donc, hein, dans quel secteur il faut souvent donc mettre le gras loup pour que cela puisse véritablement marcher. Mais tous les secteurs aujourd'hui, hein, vous prenez les Togolais, beaucoup souffrent, hein. Qu'ils soient fonctionnaires ou non, nous sommes toujours logés à la même enseigne, quoi, presque.
D'accord. Voilà. Vous trouvez plutôt, hein, que les leviers dont parle alors le Sylvestre tout de suite, et il y a le gouvernement qui a trouvé quand même ces leviers. Quand vous titrez à la une alors de votre journal Gazelle Info, besoins sociaux et modernisation de l'administration publique, obtention de 180 milliards de francs CFA du Togo de la Banque mondiale. C'est bien ça?
Oui, en fait, les retombées de la signature de l'accord avec la Banque mondiale ne se sont pas faites attendre. Donc, pour le premier volet, c'est les 180 milliards qui ont été affectés au Togo. Et c'est destiné à des points précis. Il s'agit de 3 points précisément. Le premier qui concerne les besoins d'électricité dans les coins les plus reculés. Le deuxième point concerne un peu la modernisation de l'administration. Et puis, le deuxième point concerne le renforcement des capacités et puis l'assistance aux réfugiés et aux habitants des zones en proie aux attaques terroristes, donc la partie septentrionale du pays. La signature vient d'être faite, donc les engagements sont prêts. On espère quand même que les fonds seront utilisés à bon escient et atteindront les objectifs pour lesquels ils ont été alloués, surtout pour les populations bénéficiaires également, et que comme c'est les populations qui doivent payer, on vient de le dire, c'est un prêt, il ne s'agit pas d'un don. Donc c'est cette utilisation en fait parcimonieuse qui nous permettra en fait de relever peut-être prochainement la cagnotte et que les bailleurs également nous fassent confiance. Donc toute la demande ou le suivi qu'on peut faire, c'est que les fonds soient utilisés à bon escient et que ça impacte positivement les populations.
Abbas, les populations attendent voir aussi l'impact alors de l'utilisation alors de ces fonds.
Oui, puisque lorsque nous avons toujours ces fonds, c'est que la population dit on ne ressent pas exactement. Et vous allez entendre les gens qu'il n'y a pas d'argent dans le pays, nous avons faim, on ne mange pas un plat ou bien deux plats par jour. Donc il faudrait qu'il y ait de l'impact de ces fonds. Si aujourd'hui on dit que nous avons de l'argent, on nous avait un prêt, que ce prêt qui est destiné à financer surtout les secteurs de santé, les secteurs
de l'énergie
et que les secteurs même de l'alimentation, tout ça, de l'agriculture, il faudrait que la population sente effectivement que ce que nous avons, on nous annonce, que ce ne soit pas des effets d'annonce. Et comme on le dit, c'est que la Banque mondiale, lorsqu'elle vous fait un prêt, elle vous suit comme de l'huile sur le feu, et que s'il y a un détournement du projet, c'est que vous êtes pas, vous allez tout rembourser. Moi, j'ai suivi la Banque mondiale dans certains investissements qu'ils font. D'habitude, ils font les investissements eux-mêmes. Ils vont sur le terrain. S'il y a la construction des classes, la construction des salles de classe ou la construction des centres de santé, la première année qu'ils ont financée, ils descendent sur le terrain pour voir le démarrage des travaux. Et après 3 ans, ils retournent sur le terrain pour voir la réalisation de ces effectifs, de ces infrastructures qui ont été faites. Donc, j'ai eu la chance de les suivre dans ces genres de choses, surtout dans la région des savanes où il y avait beaucoup de manque de ces infrastructures. Et c'est les constats qu'ils font. Donc aujourd'hui, on voit que si ces fonds-là vont servir à sortir la population de la misère, j'espère que c'est de bonnes choses et que ces fonds-là soient utilisés à bon escient pour le bonheur de la population togolaise. Parce que c'est depuis 2022 que ces négociations-là ont commencé avec le chef de l'État. Il est allé la dernière fois au sommet de la Banque mondiale où il a rencontré les responsables de la Banque mondiale par rapport à la feuille de route gouvernementale. Donc c'est suite à ça que ces fonds-là sont arrivés et le Togo est classé maintenant dans une situation où il y a un guichet pour la résilience qui peut lui permettre de prendre des prêts sur un guichet spécial. Donc je pense que c'est une bonne chose que le gouvernement est en train de faire, mais que ça réjaillisse sur la population, ça a des effets, des influences sur la population togolaise qui ne doit pas créer que nous avons fait.
D'accord. Alors, c'est vrai que quand on parle des fonds, quand on utilise mal alors ces fonds, on parle alors de détournement de fonds, on parle également alors de la corruption, et la poussière est là pour taper du poing sur la table. Mais ce matin, vous titrez à la une de votre journal « Caravane contre la corruption, à poussière, on joue la comédie ». Ça veut dire ?
Oui, bon, si vous le permettez, avant de revenir à la question, je voulais faire observer quelque chose. Vous voyez, on a tellement donc de projets parfois sur des financements pour les mêmes projets, par exemple. Vous voyez, dans le prêt donc de la Banque mondiale, on parle donc de projets qui concernent encore à apporter donc l'électricité dans les milieux les plus reculés.
Tout à fait.
Mais avant, on avait aussi d'autres projets similaires, comme le CISO, par exemple, le projet CISO qu'on avait eu, projet d'électrification donc en zone rurale et tout ça. On avait tellement donc de projets parfois, tellement de financement parfois pour les mêmes projets. Mais généralement, ça ne marche pas. Voyez-vous, c'est pourquoi je parlais tout à l'heure donc de statu quo. Vous allez à Kato, non,
peut-être
vous allez...
Il faut faire le point sur le taux d'électrification d'une année à une autre avant de s'avancer. Est-ce que CISO a permis de couvrir ces zones-là à 100%?
Oui.
C'est la question qu'il faut poser. Bon, maintenant, si ce n'est pas à 100%, donc naturellement, on peut rechercher d'autres financements.
Oui, mais si ce n'est pas à 100%, on devait déjà avoir au moins les prémices donc de ce projet, voyez-vous. Même à Lomé ici, on souffre encore. Je parle des Anguera, je parle d'Akato. Même à Lomé, Lomé même n'est pas encore couvert. Juste à parler donc des zones rurales, voyez-vous. Donc parfois on a tellement de financements pour les mêmes
projets.
Donc
la raison pour laquelle
il faut faire le point. En fait, sans le point effectif, on ne peut pas
jouer. Malheureusement, souvent on ne fait même pas de bilan après chaque projet. On va de projet en projet. Voyez-vous, on a encore des financements de la Banque mondiale, on parle donc encore de l'énergie. Hein, 2 ou 4 ans plus tard, on parle de 5 ans. 5 ans plus tard, ils iront encore prendre peut-être en Koweït ou je sais pas en Azerbaïdjan pour les mêmes projets. Et ça ne marchera pas. Maintenant, pour revenir à la Poussière, oui, on joue la comédie. Oui, bon, en fait, à Poussière, l'année prochaine, fera 10 ans. Ça fait 10 ans que cette institution a été installée au Togo. Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun dossier qui, véritablement, donc, contente ou comble les attentes des Togolais. Voyez-vous, à Poussière a été installée en 2015, c'est-à-dire 2 ans après la CAN 2013. Et quand on parle de la CAN 2013, nous tous nous savons ce qui s'est passé avec ce déficit de plus de 600 millions après l'audit. Et deux ans avant la CAN 2017. Et quand on parle de CAN 2017, on sait également 628 millions de francs CFA après l'audit. Et il y a la route Lomé-Vogan. Il y a tellement donc de dossiers où généralement on parle donc de corruption, on parle de détournement, mais là, puis c'est là pendant 10 ans. Voyez-vous? Et même, il y a un Togolais qui faisait une analyse pertinente sur les réseaux la dernière fois en disant même que la puce aurait même pu s'auto-saisir sur le Covid Gate. Sur le Covid Gate. Hein, parce que pour le Covid Gate, d'aucuns disaient que bon, il y a tellement de détournements, il y a de corruption et tout ça. La puce aurait pu quand même s'auto-saisir sur ce dossier-là pour éclairer les Togolais. Vous avez le Parlement a fait une enquête et on n'a jamais eu les résultats jusqu'à ce que la dernière législature ne soit partie, voyez-vous. Donc il y a tellement donc de choses que qu'on doit faire. Hein. L'Abrissa même avait parlé donc de ces 88 dossiers qu'ils ont eu et que c'était en raboussé et tout. Or, quand vous prenez même la loi qui fixe cette institution, vous prenez donc l'article, il a dit donc de rendre cela public annuellement. Voyez-vous, ça n'a pas été fait. Maintenant, on nous annonce une caravane pour sensibiliser les Togolais sur la corruption.
Écoutez, c'est de la comédie.
C'est de la comédie. Sérieux.
Alors, Fabrice, est-ce que vous avez aussi l'impression que la Apulcia n'est que dans les... Enfin, pour ce qui concerne alors surtout les décisions et tout, que la Apulcia ne va pas à l'essentiel?
Non, je crois que avant d'attaquer une institution, il faut chercher à comprendre les tests qui instaurent cette institution-là. Et à plusieurs reprises, la APLUCIA a eu l'occasion d'édifier les journalistes sur ses prérogatives. Et ce qu'on demande à la APLUCIA, ça ne relève pas de ses prérogatives. Et je crois que l'actuel bureau même de la APLUCIA est dans une logique de voir dans quelle mesure on peut revoir les tests pour que la APLUCIA peut-être puisse étendre ses actions à un niveau où aujourd'hui les tests ne lui permettent pas. C'est un peu de ça qu'il choisit. Il y a un travail qui est fait, qui est déposé à des niveaux où des gens doivent agir. Bon, maintenant, si moi je travaille dans une clinique, mon rôle est d'accueillir les patients et de leur délivrer ceci pour qu'ils aillent chez le médecin. Si à mon niveau je le fais et au niveau du médecin, le médecin ne les soigne pas, je ne sais pas si c'est ma faute. Donc je crois que à chaque niveau, toutes les institutions ont un rôle à jouer. Et si vous approchez aujourd'hui la APLUCIA et on vous explique les tests qui régissent cette institution, vous allez comprendre qu'aujourd'hui il lui manque beaucoup de choses. C'est pour cela parfois on dit c'est un lion sans griffes ou sans dents, c'est-à-dire que on ne lui a pas donné des prérogatives qui lui permettent aujourd'hui peut-être d'agir un peu comme dans le Bénin voisin à côté, où la criette a la possibilité même d'aller interpeller les gens et autres. Donc aujourd'hui, le lobbying peut-être qu'on doit faire, parce qu'au départ, effectivement, on a passé le temps à jeter la pierre à APLUCIA, mais quand on est allé revisiter effectivement leur test, on a compris qu'en réalité, le problème n'est pas au niveau de APLUCIA.
Mais Fabrice, là, si on veut vraiment lutter contre la corruption, pourquoi ne pas donner le pouvoir à la APLUCIA en même temps?
Oui, c'est ce que je dis. Il faut faire la nuance. C'est-à-dire que on a créé une institution, d'abord elle a été créée, on a mis du temps avant même qu'elle prenne fonction, et je crois que c'est dans les années 2017, comme ça le premier bureau, on a nommé des gens, ils ont même traîné avant qu'ils ne prennent fonction, tout ça là et autres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes à la tête d'une institution qui est, enfin, régie par des tests. Et il y a des choses que vous pouvez faire, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Je ne dis pas que la corruption n'existe pas au Togo, mais la APLUCIA fait sa part par rapport aux compétences qu'on lui a données. Mais il y a un niveau où ce n'est plus, il ne revient plus à la APLUCIA d'agir. Même la APLUCIA même est embêtée. Parce qu'effectivement, il y a des dossiers qui sont là, mais on ne s'auto-saisit pas et tout ça là et autre. Et c'est pour cela aujourd'hui, je crois que le lobbying qui a lieu de faire, c'est d'arriver à une situation où on confère un peu plus de pouvoir à la APLUCIA pour que les gens puissent sentir que quelque chose de concret.
D'accord.
Dans ce cas, s'il faut faire du lobbying, il faudrait que la APLUCIA fasse du lobbying. Pourquoi aller faire une caravane circuler en musique dans les rues de l'Europe?
Attendant que le lobby ne soit fait, donc elle sensibilise.
Donc c'est faire la comédie après.
Mais entre-temps, la plus a organisé même d'ailleurs un concours à l'ordre de, comment l'appelle-t-on, de littérature.
C'est ça la comédie.
C'est vrai que, est-ce que quand la plus aujourd'hui n'a pas assez de pouvoir, mais finalement, ça veut dire quand même qu'on met une institution en place et avec cette institution, on ne peut pas même avoir alors de contraintes, de pression sur les gens qui sont alors des, enfin, qui font la corruption.
Oui, c'est pourquoi les lois ne sont pas inamovibles. Il faut réviser les lois. Puisque on est parti d'un constat, ils ont élaboré les tests pour mettre en place cette institution. Maintenant que des remarques sont faites dans la pratique, je crois qu'il faut juste réviser les tests pour permettre effectivement à la Ploussière d'aller un peu plus loin. Comme l'a dit les confrères tout à l'heure, enfin Fabrice tout à l'heure, aujourd'hui la Ploussière se comporte un peu comme un chien édenté. Tu aboies, mais tu ne peux pas mordre. Du coup, bon, elle fait juste ce qu'on lui a confié. En fait, l'institution a un cahier de charge. Aujourd'hui, a plus à remplir son cahier de charges, qui est d'enquêter sur les cas de corruption et tout ça là, mais elle ne peut pas sanctionner. Après l'étude des dossiers, elle reverse ça au niveau du tribunal, au niveau de l'institution compétente, et il appartient à cette institution maintenant d'instruire le dossier et de prendre qu'il faut prendre pour répondre de son acte. Donc, de ce point de vue-là, on ne peut pas dire aujourd'hui que la Ploussière ne travaille pas. Elle remplit juste son cahier de charges. Il appartient maintenant aux autorités de revoir les tests qui permettent à la Ploussière d'agir effectivement pour aller jusqu'au bout de son processus à son niveau pour régler effectivement le problème.
Oui, mais et quand on voit qu'on met une institution en place et qui n'a pas ce rôle alors de sanction, tandis qu'on parle alors de la lutte contre la corruption, finalement, est-ce qu'on ne va pas interroger même d'ailleurs la bonne volonté de ceux qui ont mis en place alors ces institutions?
Oui, mais on a mis en place cette institution, Fabrice l'a dit tout à l'heure, c'est les textes qui encadrent une institution. L'institution travaille, on a vu la Ploussière travailler et aller déposer les dossiers au niveau de la justice. En principe, c'est la justice qui doit faire son travail. Ce n'est pas la Ploussière. On ne peut pas dire que la Ploussière joue de la comédie parce que son rôle premier, c'est la sensibilisation. Et tous les acteurs et tous les secteurs même de la société civile et même des politiques ont été sensibilisés par rapport à la Ploussière sur les tests qui gouvernent son fonctionnement, sa mission. Nous avons tous été formés et sensibilisés sur ça. Et sur les tests, chacun au moins a les tests même qu'il doit lire. Son rôle premier, c'est sensibiliser les gens, amener les gens à ne pas faire de la corruption. Un leitmotiv. Mais si aujourd'hui, la Ploussière dit qu'elle va organiser une caravane de sensibilisation à l'endroit aussi des populations qui n'ont pas été formées, moi je ne vois pas pourquoi on va traiter ça de comédie. C'est son rôle principal, son rôle premier. Ceux-là qui doivent jouer le vrai rôle, c'est la justice. La Ploussière a déposé des dossiers, a fait des rapports.
Mais est-ce que vous pensez que faire la caravane pourra avoir l'impact sur ces choses-là?
C'est la sensibilisation, ça peut avoir les impacts. Moi, sur moi, ça peut avoir les impacts. Quand on dit que la Ploussière n'a même pas de choses, aujourd'hui, je crois que la constitution, la nouvelle constitution, donne beaucoup plus de pouvoir également à la Ploussière. Parce que quand vous lisez les textes concernant cette Ploussière, elle peut maintenant agir.
D'accord.
Dans la nouvelle constitution, elle peut agir.
Fabrice, je reviens sur ma question. C'est-à-dire organiser des caravanes, organiser
des... Oui, mais quand vous allez dans les églises les dimanches, on vous dit de vous aimer les uns les autres, vous ne vous aimez jamais. Le prêtre arrête de vous le dire. Il faut toujours continuer. C'est la sensibilisation. On ne peut pas aujourd'hui, à moins que vous n'ayez fait une étude, on ne peut pas aujourd'hui dire que ce qu'on dit là, ça n'a aucun impact. Bon, sur quelle base? J'en sais rien. Bon, est-ce que peut-être parce que les gens continuent toujours... Est-ce que la corruption existe? Oui ou non? Ça continue là. La corruption existe. Donc si aujourd'hui quelqu'un fait un projet pour dire je vais sensibiliser contre la corruption, c'est un projet qui a les chances d'être banqué.
C'est actuel.
Parce que toutes les études prouvent que Aujourd'hui, il y a la corruption partout. Même vous, les journalistes, vous êtes corrompus. Moi, j'ai fait une communication.
Comme vous parlez de vous, les journalistes, parlez de nous, les journalistes. Parlez de nous, les journalistes.
Oui, nous sommes corrompus. Est-ce que je mens?
Non, je ne sais pas.
Non, je sais pas. C'est un corps de métier où la corruption existe. Et ce n'est pas seulement, c'est pas parce que nous, on a la chance d'avoir les micros. Chaque fois, on vient, on parle de. Ouais, des agents de sécurité qui sont dans le coin, qui font la corruption. La presse est corrompue, c'est une réalité. Moi, j'ai fait une communication là-dessus à un atelier. La corruption existe dans la presse. Ça, je ne sais pas. Je brise toutes les règles de confraternité pour dire que la presse est un secteur corrompu.
D'accord.
C'est donc, aujourd'hui, si on dit, on sensibilise les gens contre la corruption, on peut pas dire que c'est pas la peine. Quand vous dites que ce n'est pas la peine, que c'est comme si on a réglé ce problème. On ne l'a pas réglé.
D'accord.
La corruption
peut-être que Sylvestre a une meilleure proposition.
Ce qui est sur la poussière doit nous sensibiliser aussi. Ok, oui, Sylvestre.
Non, écoutez, il faut être sérieux. Je crois que la République est une grande institution. Une institution de cette stature. Quand on dit on va circuler, on circule en fanfare musique parce qu'on fait une caravane de lutte contre la corruption.
Ou on fait des joutes verbales.
Où on fait des joutes verbales, on parle de littérature. Écoutez, il faut avoir un projet qui, véritablement, qui puisse impacter. Parce que à chaque fois, quand on parle de caravane, moi, c'est souvent, les caravanes, souvent, quand ça prend, vous verrez que ça un volet beaucoup plus commercial. Vous voyez Togocom qui fait des caravanes parce qu'ils sont sûrs qu'ils peuvent au moins trouver les Togolais et vendre des puces. Voyez-vous, et d'autres secteurs.
Qu'est-ce qui nous fait dire que ce n'est pas aujourd'hui, une étude qu'ils font ça? Quel est l'impact que vous mesurez pour pouvoir battre ça en bref?
Quelle est l'étude? Est-ce que ils vous ont dit qu'ils ont fait une étude pour dire qu'en circulant donc à Lomé, en caravane et en musique,
les Togolais ont pourquoi ils vont faire la caravane?
D'accord, ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher confrère. Merci beaucoup. Je pense que c'est un débat très passionnant. Nous allons en arrêter là et donner aussi la parole à nos auditeurs puisqu'ils s'impatientent aussi à entrer en ligne, à rentrer alors dans ce débat avec nous. Mais nous allons faire un clin d'œil à nos annonceurs d'abord.
93.5
Canal FM.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler sur nos deux numéros 91 36 63 75 et nous avons un nouveau numéro aussi le 90 86 35 35. 90 86 35 35. C'est sur ces deux numéros que vous pouvez nous appeler. Premier auditeur en ligne. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Oui, bonjour. Comment vous allez?
Ça va bien.
Votre nom c'est... Ah, monsieur Maouda, allez-y.
Je salue le plateau.
Le plateau aussi vous salue.
Avant d'entrer dans l'émission, je vous permets de vous féliciter.
Merci
pour l'émission. Vous savez, avant que ça s'est animé l'émission, il est supposé que c'est vous qui allez la faire. Moi, je ne veux plus l'émission. Parce que je ne me sens pas. Maintenant, vous avez apporté l'émission pour cadrer même bien les auditeurs et les confrères. Chapeau à vous. Je ne sais pas pourquoi les gens disent que l'équipe nationale, ça va seulement marcher là-bas. Ça marche même dans le pays. Quelle institution marche vraiment dans ce pays? Quand la tête n'est pas bonne, c'est que la politique sera pareille. Monsieur Pascal, nous ne voulons pas la face, nous ne voulons pas l'hypocrisie, quoi. C'est dire la politique. Au pays, là, il y a deux sensibilités. Il y a ceux qui sont pour la minorité du jeu et ceux qui sont pour la majorité populaire. Même chose dans votre corporation. Ça ne parle pas le niveau. Moi, je ne veux pas. Un gouvernement qui ne veut pas changer les choses doit attaquer ceux qui les critiquent. Non. Les poursuivants, en exil, les enfermer. Non. C'est nous, alors que ceux qui les critiquent, qui doivent prendre attention et éviter. Chargement, pour corriger vraiment les choses. Bon, vous nous tuez la politique. Et certains journalistes aussi tombent dans ça. Est-ce que ça, là, ça anime le débat? Est-ce que ça vraiment charge, ça permet de charger le pays? Ou bien de concepter les dirigeants? Non.
D'accord.
Disons la vérité.
Ok, merci beaucoup monsieur Maouna pour votre intervention. 91 36 63 75 90 86 35 35. Allô?
Canal FM, bonsoir.
Oui, bonsoir, comment vous allez?
Très bien, comme un ange au ciel.
Voilà, c'est Océanie, le messager de l'amour.
Tout à fait.
Voilà, allez-y.
Je vais souhaiter bonne chance à l'immobilier d'arrêt. Je demande aussi la réconciliation entre Rav Niasimbe, Tata Aglesi, pour que ensemble le football togolais aille de l'avant. Merci et bonne émission.
Merci beaucoup au CENI pour votre intervention. Allô?
Allô?
Bonjour.
Bonjour.
C'est Monsieur Niamavo.
Oui, Niamavo.
Allez-y.
Oui, on faisait une analyse concernant le football togolais. En tout cas, j'avais posé ce problème à M. Trimoire. Si le fait mal couvert, ça ne veut pas donner 1%. C'est par rapport à ce qui se passe. Nous voyons là. Bon, analysons un peu. Quand on fait les inter-écoles, on dit que l'école qui soit championne, c'est elle qui va aller jusqu'à croiser les autres. Or, il y a d'autres talents dans d'autres écoles. Donc, au moins, si une inspection sort, qu'on sélectionne les enfants là-bas, les talentueux, pour croiser l'autre inspection, ainsi de suite, jusqu'à régional, national, et on met ces élèves-là dans une école de foot. C'est comme ça les élèves font. Et comment les Européens font. Et puis, ils ont une bonne équipe. Mais on laisse seulement les mêmes évoluer, après, on banalise. Et les élèves, bon, après, ils se cherchent. Donc, on n'a pas une pépinière. Et ça ne peut pas aller. C'est pas chercher un entraîneur, aller voir que toi tu sais jouer bien à Arsenal, toi tu sais jouer bien en Chine, tu viens jouer au Togo. C'est pas concordant, ça. Est-ce que vous voyez? Donc, concernant la corruption, oh, en tout cas, on nous a interdit, il semble qu'on nous a interdit de réfléchir. Hein. On peut tout dire, on ne prend rien en considération. Même ceux-là qui souhaitent les dossiers qu'ils luttent contre la corruption, quelqu'un l'a dit. C'était même les gens de la plus chère sont menacés. Ils sont intelligents pour le faire, mais ils ne peuvent pas. Voilà quoi. Merci.
Merci beaucoup, monsieur Niamavo, pour votre intervention. 91 36 63 75. Allô?
Oui, allô.
Bonjour.
Bonjour.
Comment vous allez?
Oui, ça va très bien.
C'est Pélé.
Oui.
D'accord, Pélé, allez-y.
Bon, d'abord, pour le pauvre Lubombé Daré. Oui, qu'est-ce qu'il va faire? Il n'y a rien. C'est-à-dire, ce n'est pas question de grand entraîneur au Togo. Sinon, on peut aller chercher de n'importe qui pour venir. C'est le système en place. Il y a problème. On voit depuis 1972 jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il faut demander? Si nous avons...
Allô, Pélé.
Oui, allô?
Oui, vous avez... Il y a un bruit. Il y a un bruit autour de vous, là, qui fait que nous avons du mal à vous écouter.
Il y a un bruit qui passe là, je suis... Bon, je parle que si nous avons un bon entraîneur, ce n'est pas ça le problème. C'est le système du football Togo. Regardez depuis 1972 ce qui se passe. C'est la même chose. Ce que nous demandons aujourd'hui, c'est le chef de l'État de taper sur la table, comme l'a fait Patrice Talon. Si nous avons le Bénin qui a un budget de sport à 43 milliards et que le Togo a 5 milliards, qu'est-ce que Dudu-Gombe Daré va faire avec 350 millions mais qu'est-ce? Il ne fera rien. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est la discipline et le financement qui fait le sport. La discipline, c'est le gouvernement qui va installer ça. Le financement, c'est le gouvernement qui va installer ça. Tout ça, là, c'est ça qui amène le résultat. C'est tout. Maintenant, si nous allons parler de la Prussia, mais on l'a toujours dit, pauvre Prussia, hein, il faut aider le peuple togolais, que le Togo évolue. C'est tout ce que nous pouvons dire. C'est-à-dire, balader dans les rues pour dire qu'on fait la sensibilisation pour chasser le voleur. Moi, je n'ai jamais vu de nulle part. Hein. Le voleur, là, la Prussia n'a qu'un intérêt. Il n'a qu'à aller chez le chef de l'État et chercher la minorité qui s'accapare la richesse du pays. Ce qu'il faut, la surfacturation dans l'administration, le chef de l'État connaît. Il n'a pas dit ça à Vaza. Ce n'est pas un discours. C'est un discours à la nation qu'il a fait. Ce n'est pas une interview. Merci.
Merci beaucoup, Pélé, pour votre intervention. 91 36 63 75. Bonjour, madame Essie.
Oui, moi, je veux juste inaugurer ton nouveau numéro, là. C'est tout ça. C'est ça qui m'a poussé à appeler. Plus le reste, quand même. Et je veux dire RIP à la famille Amadlo. Et j'ai oublié la dernière fois. Et bon, c'est pas bon. Vous avez parlé de tout et de rien, du football, c'est ça. Moi, le football m'énerve déjà. Et puis, la Cour des comptes, vous avez parlé de tout ça, non?
La Plussia, plutôt.
La Plussia, c'est pareil, non? Bon, les gens ne sont pas sérieux dans les pays, c'est tout. C'est pour ça qu'on se retrouve dans cet état-là. Les gens ne sont pas sérieux. Je pense que là, l'alternance est noble dans une république. Vous allez convenir avec moi quand même. Parce que quand on n'alterne pas, là, la république se trouve dans cet état-là. On est tous mal dedans. Hein? On est tous mal. Il faut alterner. Je ne sais pas pourquoi on nous refuse l'alternance et la démocratie. Pourquoi on nous le refuse? Les gens sont là depuis des décennies, non? Ça ne leur suffit pas. C'est pas bon. Voilà, c'est tout ce que je veux dire.
D'accord,
là,
merci.
Je crois qu'il y a ma soeur qui vient animer là-bas. Là. Je vais la seconder. Parce que vous êtes. Il y a plus d'hommages. Elle est toute seule. Je viendrai. Qui va me l'autoriser ou pas?
D'accord, tu peux venir. Je vais t'accueillir.
D'accord.
Bravo. Je vais
seconder ma soeur qui se débat entre. Là-bas.
D'accord, ok. Merci beaucoup, madame ici, pour votre intervention. 91 36 sur 315 90 86 35 35, les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir au club de la presse. Allô?
Oui, bonjour, monsieur Pascal.
Bonjour, comment vous allez?
Je vais bien, chez vous?
Ça va aussi, par la grâce de Dieu. Votre nom, c'est?
Benoît Dagoué.
Benoît, allez-y.
Et vous avez dit que le Togo a fait un prêt de 900 fois milliards. Écoutez, nous bien sûr, Mathieu de Guindingue, nous avons refusé qu'on nous aide pour organiser une élection. Et nous sommes un État souverain. On nous aide pour organiser une élection quand nous avons refusé. Maintenant, nous-mêmes, on organise le fonds élection. Et maintenant, on va aller faire des prêts pour subvenir aux besoins de notre population. Et d'autres fois, j'écoutais un député, je ne sais pas trop, qui dit qu'ils vont aller vers la population pour relever les défis, les tâches et remettre au président de la République pour répondre aux attentes du peuple. À quoi ça sert les élections. Et maintenant, il y a une commission que vous appelez Ashkrukwai, qui prend de l'argent, le carburant et tout, et qui se promène dire que nous ne sommes pas corrompus. Il reste, et je termine par là.
Non, vous voulez parler de la police, c'est pas la Ashkrukwai.
Une commission pour dire n'allez pas prendre de chicha ou bien ne soyez pas des bandits. Merci,
bonne journée. Bonne journée, Benoît, depuis Agoué. 91 36 63 75 90 86 35 35. C'est sur ces deux numéros que vous pouvez réagir au club de la presse. Allô?
Oui, allô, bonjour, Pascal.
Bonjour, comment vous allez?
Très bien.
C'est Eddie.
Eddie,
oui, allez-y.
Vous avez prononcé du apprécié, n'est-ce pas, avec le sport?
Oui, allez-y, Eddie, je vous écoute.
Moi, je pense, les Togolais disent que nous avons des problèmes de football. Alors que M. Bordé, lui, il a travaillé à FTF. Donc, il est en train de parler. Moi, ce que j'ai compris, comme il a travaillé là-bas, donc, on ne peut pas dire qu'il a fait quelque chose. Donc, c'est son agent que lui, il est en train de réclamer. Vous comprenez, non?
Allez-y.
Ok, bon, je parle aussi pour Apricia. Bon, on parle de la corruption. Si Apricia va venir, qu'il a pris quoi maintenant? À qui maintenant?
D'accord.
Ok,
merci beaucoup, Eddy. Je pense que nous allons recevoir notre dernier auditeur pour le compte de cette émission.
Bonjour.
Allô, bonjour, comment vous allez? C'est Richard. Oui, allez-y.
Bonjour. Je pense que c'est
quelle traduction par la faire. Nous essayons de débattre sur nous.
Richard, nous avons un peu de mal à vous écouter. Il semble qu'il y a quelques, un écho à votre niveau.
Oui.
Oui.
Oui. J'aimerais en faire un mot sur la question. Vous voyez, j'ai l'impression qu'on est. Qui n'est pas compatible? Qui? Nous sommes tous compatibles. Mais il y a quelque chose qui me fait mal, souvent. C'est quand tu vois un jeune homme, vous parlez de ce qui se passe, c'est pas de savoir. Mais, il se pose une maison qui fait à peu près 1 million et 1 demi-milliard. 1 demi-milliard mondial. Mais d'où vient cet argent? Je suis un entrepreneur du bâtiment. Je sais que, ici, sans les riches, se permettre de construire une maison. Mais en Afrique, nous avons ce système, cette situation que je ne sais pas, cette situation que nous avons acquise. Quand tout le monde, même s'il gagne un petit moyen de faire un chien, ce qui fait que des fois, les gens sont obligés d'aller construire dans leur vie, je ne sais pas, dans leur pièce. C'est cette histoire, nous devons parmi cette manière de faire.
D'accord.
La condition, elle est bien prête. Moi-même, je vois à l'état de l'opéra.
D'accord. Merci, Richard. Je vais vous prier alors de, puisqu'il y a un écho hein, à votre niveau, donc je pense quand même que nous allons en arrêter là par rapport surtout à l'intervention téléphonique. Merci à vous tous qui nous avez appelés et merci pour votre intervention au Club de la Presse. Nous allons faire un dernier tour de table et clôturer l'émission alors de ce jour, bien sûr. Fabrice, vous avez écouté aussi les uns les autres se prononcer sur l'actualité telle que débattu ici au Club de la Presse. Votre réaction?
Bah, j'avoue que je n'ai rien pigé de tout ce qui a été dit par les auditeurs. Je ne sais pas si c'est un souci au niveau de mon oreille. J'ai rien
peut-être pigé, qu'il y a un souci au niveau du retour.
Mais de toutes les façons, je voudrais tout simplement... Nous avons parlé de la corruption ici et également de ce partenariat que le Togo. Mais il faut dire qu'en réalité, tous les pays font des prêts, hein, même les États-Unis. Ça fait partie des plus endettés d'ailleurs. Même au plan local, dans notre vie quotidienne, les gens roulent sur des prêts pour réaliser des choses. Et généralement, on n'emprunte pas à n'importe qui. Hein. C'est pour que la banque te passe de l'argent, c'est qu'elle s'assure que tu as de l'argent et que ce que tu es en train d'emprunter, tu peux le rembourser. Donc, ça fait partie de la vie. Et ce n'est pas un don, on ne donne d'ailleurs même plus. Et maintenant, ce n'est pas également une insulte ou une honte quand on dit que tu es endetté. Je crois que ce n'est pas une faute quand on est endetté, mais la faute c'est quand on n'arrive pas à rembourser ses dettes. Parce que peut-être l'argent qui a été pris n'a pas été bien utilisé, n'a pas été rentabilisé. Donc c'est un peu cela. Pour ce qui est de la corruption, tous les secteurs sont corrompus. Même les pasteurs sont corrompus. Ils ne prient que pour ceux qui leur donnent de l'argent. Donc aucun secteur n'a épargné.
D'accord. Sylvestre?
Non, écoutez, nous avons parlé donc de la PUCIA et puis des proies et de la Banque mondiale. Moi, je continue, je fais cette fixation-là sur l'institution. Il faudrait qu'on puisse nous proposer des choses beaucoup plus sérieuses qu'une caravane. J'aurais peut-être souhaité que la PCA aille peut-être dans un quartier et échanger avec les Togolais. Après, on prend quelques échantillons qui vont mettre donc dans les recommandations et soumettre donc cela aux autorités publiques pour qu'on puisse, puisque je sais qu'en écoutant les Togolais, on dit, oui, vous êtes là, vous ne faites rien. Pourquoi ils ne font rien? Eux aussi, c'est l'occasion d'expliquer cela donc aux populations. Vous voyez que de circuler en musique en disant qu'on est en caravane contre la corruption, ça, c'est pas sérieux.
Ok, d'accord. Alors, donc, voilà. Oui, ok, merci beaucoup. C'est 30 secondes.
J'ai eu aussi du mal à écouter vraiment les auditeurs. Il y a un défaut de retour. Mais je crois que Daïssi disait qu'elle va venir sur le plateau, que je suis la seule femme ou quelque chose comme ça. Je ne sais vraiment pas. Mais c'est ce que j'ai cru entendre. Bon, elle sera la bienvenue, pas de problème.
Est-ce merci que tu
pour
es la
le
seule.
Coucou. Voilà, merci pour le coucou. Sinon, ça ne me dérange pas du tout. Je suis très à l'aise parmi mes pères. Et puis, c'est bon. Alors,
ensuite, je ne crois pas que Baudet également ait travaillé au niveau de la fédération. J'ai cru qu'un auditeur a dit quelque chose comme ça, qu'il a travaillé Eddie, au sein de la fédération. Oui, il a travaillé au sein de la fédération. D'accord. Donc, donc il faut creuser également ce dossier pour que tous les problèmes soient levés. Merci à tous les auditeurs et auditrices.
Merci beaucoup, Estelle. Abbas?
Oui, je pense qu'on a parlé beaucoup de football et aujourd'hui, on a un nouvel entraîneur. Tous les Togolais ont souhaité que ce soit un local comme dans les autres pays. Mais comme le local est arrivé, il faudrait qu'on puisse le soutenir et qu'on lui donne des moyens pour qu'il puisse réussir sa mission. J'ai donné une note, je suis toujours dans le football. Les organisateurs de la Coupe du Togo lui donnent 1 sur 10.
1 sur 10 ?
Oui, parce que...
Et c'est une note objective.
Une organisation, une coupe nationale du Togo qui a été organisée samedi dernier. On dit coupe nationale du Togo. Il faut voir les gradins. C'était vide.
Il n'y avait pas de public.
Et on va nous parler de coupe nationale du Togo. Je pense que la prochaine fois, ça va être mieux parce qu'il faudrait aussi la présence des autorités de ce pays. Même si le chef de l'État peut se présenter pour remettre la coupe. Ce serait quelque chose.
D'accord, merci beaucoup Abbas d'être passé dans cette émission. Fabrice, merci à toi d'être passé aussi dans cette émission. Merci. Sylvestre, merci d'être passé. Estelle, merci d'être passé alors dans cette émission. Ça fait toujours plaisir, hein, chers confrères, d'être avec vous et aussi vous, auditeurs qui participez à cette émission, vous qui nous écoutez aussi, ça fait toujours plaisir d'être en contact avec vous. Merci de nous avoir suivis. Nous sommes à la fin de cette émission. Michel, Koku, Vitor, Guetomega était à la mise en onde. Jérôme Dakoucha a assuré la mise en ligne. Je suis Pascal Osso. Je vous retrouve demain jeudi à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.